les quatre cavaliers de l'Apocalypse, que l'on trouve donc en Apocalypse 6, ont marqué très fortement les imaginations. On en a fait depuis le Moyen-Âge, depuis tout le temps, des représentations extraordinaires comme étant des choses particulièrement effrayantes. Au Moyen-Âge, on disait qu'ils représentaient les quatre fléaux principaux qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire la guerre, les épidémies, la mort et l'asservissement. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'on peut continuer de le lire de cette manière-là. Je crois que la lecture moderne va simplement essayer de replacer ces quatre cavaliers dans leur contexte. Or, le contexte, on le trouve au chapitre 5. C'est qu'il y a un petit livre. Ce petit livre, c'est évidemment la Bible, c'est l'Écriture. Et ce petit livre, on nous dit qu'il est fermé de 7 sceaux. C'est-à-dire que si on veut le lire, il va falloir briser les 7 sceaux les uns après les autres. Et tant qu'on n'a pas brisé ces 7 sceaux, on ne peut pas lire ce petit livre qu'est la Bible. Il y a là quelque chose que je trouve de particulièrement juste et vrai. C'est que la Bible n'est pas un livre facile à lire. Et la Bible est un livre qui finalement est un peu fermé, un peu obscur, parce que pour le lire, pour la lire, il faut un certain nombre de clés, je dirais, de clés de lecture, un certain nombre de clés d'interprétation qui permettent d'en saisir le sens. Mais bien que cette Bible soit offerte à tout le monde et soit en vente libre, en quelque sorte, elle est véritablement un livre assez hermétique pour le commun des mortels. Eh bien, pour être capable d'ouvrir ce livre, pour être capable d'en comprendre vraiment le contenu, il faut en connaître les clés. Et d'après l'Apocalypse, il y a 7 clés. Les 4 premières clés, les 4 premiers sceaux, vont chacun correspondre à l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, je crois que ces 4 cavaliers représentent les 4 premières clés pour pouvoir lire la Bible. Les 4 premières choses qu'il faut savoir, et si on n'a pas réussi à dépasser ce stade-là, on n'y comprendra jamais rien. Il est vrai que ces 4 premières clés, ces 4 premiers sceaux, ce sont des chevaux. Le cheval, dans la Bible, est un animal guerrier. Quand on voulait se promener d'une manière pacifique, on se promenait comme Jésus au moment des rameaux, sur un âne. Le cheval, c'était l'animal que l'on montait pour faire la guerre. Et donc, je ne vous le cache pas, ces 4 premiers sceaux, ce sont 4 combats qu'il faut mener, 4 batailles qu'il faut gagner, et 4 étapes qu'il faut en quelque sorte dépasser. Et si on arrive à dépasser ces étapes, alors peut-être pourrons-nous comprendre ce qu'il y a dans l'Évangile. Et si on n'a pas dépassé ces étapes, eh bien, on n'a aucune chance de trouver quoi que ce soit d'intéressant dans la Bible elle-même. Alors voyons un petit peu quels sont ces 4 combats, ces 4 difficultés qu'il faut surmonter pour pouvoir accéder à la Bible. On nous dit quand on ouvre le premier sceau, voici un cheval blanc. Et celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ah ça, j'aimerais bien être comme ce cavalier-là. Pouvoir être vêtu de lumière et être là en vainqueur et pour vaincre. Nous aimerions bien tous être toujours vainqueurs, tout surmonter, tout réussir. Mais le problème, c'est que là, on se trompe de rôle. Si c'est le cavalier qui est toujours vainqueur, ce n'est pas moi. Et si c'est lui qui est vainqueur, cela veut dire que moi, je suis condamné à être vaincu, c'est-à-dire à être toujours vaincu. Et peut-être est-ce cela, la première expérience fondamentale qu'il faut dépasser et qu'il faut dépasser d'une manière positive. C'est l'expérience de l'échec. C'est-à-dire que, oui, nous aimerions bien tout réussir et être toujours les meilleurs, toujours les plus forts, et voilà que dans la réalité, eh bien, nous ne réussissons pas tout, nous ne sommes pas toujours les meilleurs, et il y a beaucoup de choses que nous échouons, dans lesquelles nous échouons, ici ou là. Et bien souvent, nous voudrions faire quelque chose et nous n'y arrivons pas. Nous ne sommes pas ce que nous aurions voulu être et nous ne parvenons pas à faire ce que nous aurions voulu faire. Autrement dit, la première chose qu'il faut découvrir, c'est que nous devons renoncer à notre désir de toute puissance. Alors ça, c'est extraordinairement difficile. Les psychanalystes disent que, normalement, l'être humain y parvient vers l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que le bébé, naturellement, est dans le fantasme de la toute-puissance, et dès qu'il a un désir, sa maman se précipite et comble ce désir, et donc le bébé a l'impression que son désir est tout-puissant. Et la psychanalyse nous dit que, pour devenir adulte, il faut découvrir un jour que l'on n'est pas tout-puissant, et, dit-elle, ça se passe vers 3-4 ans. Le problème, c'est que certains n'ont jamais accepté cette chose-là, dirais-je, et que, dans le fond, ça reste toujours pour nous une tentation que ce désir de la toute-puissance. Alors, comment arriver à dépasser cela? Eh bien, je crois qu'il y a deux manières. Il y en a une qui consiste à ne pas le dépasser, et à se dire que on y arrivera, et qu'il va falloir y arriver, que nous serons jugés sur la réussite, et qu'il va bien falloir qu'on y arrive. Et à ce moment-là, ça entraîne une sorte d'agitation, de violence vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, qui devient extrêmement difficile et compliquée. D'autres, néanmoins, parce que la vie leur a appris que de toute façon, on n'y arrive pas toujours, essayent de trouver une façon détournée de rester enfant, et disent « moi je ne peux pas tout, mais ce n'est pas grave, puisque j'ai un Dieu qui lui est tout-puissant ». Et Dieu est tout-puissant, lui il peut tout, il suffit que je lui demande par la prière et il m'obéit, donc c'est très commode. Par conséquent, j'ai la toute-puissance par l'intermédiaire du Dieu dans lequel je crois. Les mêmes psychanalystes condamnent très sévèrement ce type de foi en disant « c'est une foi infantile et qui ne permet pas à l'être humain de se positionner comme adulte dans le monde ». Je crois que c'est assez vrai. La troisième tentation, la troisième façon de mal faire, je dirais, c'est de se décourager complètement et de dire « bon, de toute façon, je n'arrive à rien, donc je suis nul, je suis mauvais, je ne pourrai jamais rien, je ne vaux rien, j'abandonne toute possibilité de faire quoi que ce soit ». Eh bien, il y a peut-être d'autres solutions plus astucieuses. Et celle que nous propose l'Évangile est de dire « eh bien, écoutez, vous n'êtes pas parfait, acceptez-le et assumez-le, je dirais, joyeusement. Et dites-vous que le fait que vous ne soyez pas parfait ne vous empêche pas de pouvoir faire plein de choses extraordinaires dans ce monde. Et le fait que vous ne soyez pas parfait et qu'il y ait plein d'échecs dans votre existence n'empêche pas que vous puissiez être aimé et que vous ayez le droit de vivre dans ce monde. » C'est-à-dire que la solution que proposera l'Évangile, c'est en fait d'accepter cette imperfection sans la nier et de l'accepter, je dirais, avec simplicité pour pouvoir la dépasser. Et ça, c'est, je crois, le point de départ de toute lecture de l'Évangile. Parce que si l'on se croit trop parfait, alors on n'a besoin de personne, ni de Dieu, ni des autres. Si l'on se croit trop parfait, alors on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de se remettre en cause, on n'a pas besoin de progresser. Et si l'on se croit trop parfait, eh bien, il n'y a aucune évolution possible. Et si l'on s'écrase dans la dépréciation de soi-même, alors on ne peut pas avancer non plus. Et donc, il y a là une façon très subtile de gérer ce sentiment d'imperfection qui est le nôtre, en l'acceptant et en le dépassant. C'est la clé d'entrée dans l'Évangile, et ce n'est pas pour rien que c'est exactement ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, dira aux gens « acceptez que vous êtes pécheurs et pardonnez ». Être pécheur, cela ne veut pas dire être coupable, parce qu'on est imparfait, on n'est pas coupable d'être imparfait, on est imparfait par nature, c'est comme ça, il faut l'admettre. Mais nous sommes pécheurs et pardonnés. Et donc le fait que nous soyons pécheurs, eh bien nous devons le savoir et nous devons en même temps accepter d'être libérés de tout sentiment de culpabilité ou de tout sentiment d'incapacité, je dirais, qui risquerait de nous neutraliser et de nous écraser au sol. Eh bien, effectivement, il faut arriver à comprendre que la vie n'est pas un championnat, que la vie ne nous réclame pas de tout réussir. La vie n'est pas une épreuve à gagner, mais la vie, c'est simplement d'accepter gentiment de faire les choses à son niveau, comme on le peut, en se disant que l'important, ce n'est pas de tout réussir, mais que l'important, c'est de faire ce qu'on peut, d'être là et de savoir que l'on est aimé et que l'on peut aimer. C'est, je crois, le premier point essentiel sur lequel répondra l'Évangile. Le deuxième va un petit peu dans le même sens, mais le complète d'une façon astucieuse. On nous dit en effet que quand il ouvre le deuxième sceau, il y a un cheval rouge feu qui sort, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Ah ça, c'est la deuxième épreuve, la deuxième expérience fondamentale qui peut-être nous empêche d'avoir trop confiance en nous-mêmes. Cette deuxième épreuve fondamentale, c'est notre incapacité à vivre en paix avec tous ceux qui nous entourent. Et en effet, il est vrai que malgré tous nos efforts, eh bien, nous nous disputons, il y a des incompréhensions, des animosités, des jalousies. Et ça aussi, c'est très, très culpabilisant, je dirais. Et à un niveau plus général, nous voyons que, quels que soient les progrès de l'humanité, il y a toujours des guerres et des bruits de guerre dans ce monde. Il y a toujours des menaces sur la paix politique ou sur la paix sociale. Et par conséquent, nous découvrons que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour avoir la paix et que nous ne pouvons pas compter sur l'homme pour parvenir à ce qu'il y ait la paix dans le monde. Eh bien ça, c'est assez important de le savoir. Parce que cela montre qu'on ne peut pas rechercher dans un point de vue purement humain la paix elle-même. Et que si nous voulons avoir la paix, le seul moyen, c'est de la trouver en soi-même, je dirais dans une dimension spirituelle. En ce sens, c'est ce cheval qui permet de dépasser, je dirais, la tentation de l'humanisme. L'humanisme, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui disent finalement l'important, c'est que l'homme soit bon, qu'il vive en paix, que tout le monde soit gentil. Eh bien, c'est sympathique, mais je crois que c'est difficile de rester dans un optimisme humaniste quand on voit tout le mal qu'il y a partout autour de soi. Et si vraiment je dois compter sur l'humain, que ce soit moi ou que ce soit celui des autres, pour accéder à la paix, eh bien, je ne suis pas sorti de l'affaire. Et je ne sais pas si je pourrai moi-même jamais trouver la paix, et je ne sais pas même si l'humanité trouvera jamais la paix. Et donc cette expérience, je dirais, de la difficulté de la paix humaine et matérielle, peut-être doit m'inviter à découvrir que la paix peut être une démarche intérieure, et que la plénitude de la paix, je ne peux la trouver qu'en moi-même, dans une démarche spirituelle en quelque sorte, qui me donne une autre dimension, parce que la paix, la vraie paix, c'est pas la paix humaine, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix impossible aux hommes qui nous est donnée comme une grâce, et non pas comme les hommes donnent, mais comme lui-même peut donner. Pour ce qui est de la paix avec les hommes, eh bien là c'est comme tout à l'heure, faites ce que vous pouvez. Et d'ailleurs, Paul a un propos très réaliste qui est intéressant. Dans l'Épître aux Romains encore, il dit, pour ce qui est de la paix, il dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est-à-dire, bon, faites comme vous pouvez, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Le troisième cavalier, on nous dit qu'il est noir. « Et celui qui le montait tenait une balance à la main. » Alors là, on est un peu induit dans l'erreur par l'image moderne de la balance qui représente la justice, mais je ne crois pas qu'il en était ainsi dans la Bible. La balance ne représente pas la justice, mais le fait de compter. Et en effet, ce même cavalier va dire « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Cela veut dire qu'il compte, ce cavalier, il compte ce que l'on peut acheter. Et on se rend compte que dans ce monde, tout a un prix. Alors ça, c'est difficile parce que nous voudrions bien acheter plein de choses. l'époque, ils voulaient acheter du blé et de l'orge. Aujourd'hui, on a d'autres idées. On voudrait acheter, je ne sais pas moi, des bijoux, des vêtements, des maisons, des voitures, tout ce que vous voulez. Et on voudrait acheter plein de choses. Mais le problème, c'est que ça coûte. Et là, il y a une autre expérience humaine fondamentale, après celle de l'échec et celle de la discorde, c'est l'expérience de la limitation nécessaire de notre désir de possession. De toute façon, nous ne pouvons pas tout posséder. Et ça, il faut aussi l'avoir compris pour pouvoir aller plus loin. C'est que nous pourrions croire aussi que pour accomplir notre vie, d'accord, j'admets que je ne peux pas tout réussir. Donc je vais me dire, pour accomplir ma vie, même si je ne réussis pas tout, je vais au moins essayer de réussir, de vivre en paix avec ma femme et mes enfants, mais je n'y arrive pas non plus. Alors je vais me dire, pour réussir ma vie, je vais posséder plein de choses. Ah, et si j'avais une voiture, une télévision, autre chose, plus ceci et plus de salaire, eh bien là, voilà, je serais heureux et j'aurais accompli ma vie. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que ce désir de possession, il est naturel, mais quelle que soit notre richesse, nous tombons toujours sur une limite. Et il y a toujours quelque chose que nous ne pouvons pas posséder, et il y a toujours quelque chose qui finira par être trop cher pour nous. Ça, c'est une expérience difficile, que l'humain, je crois, a toujours, et que par conséquent, la quête matérielle de possession est une quête qui contraint l'être humain à la frustration et à la déception d'une sorte de course sans fin, d'une quête qui ne peut aboutir et qui ne mène à rien. Alors, c'est donc la troisième expérience difficile qui, une fois de plus, doit être gérée positivement, et probablement que la meilleure façon de le gérer, c'est de chercher ailleurs cet absolu. Et c'est ce que nous apprend ce troisième cheval, c'est que la valeur de notre être ne dépendra de toute façon pas de notre avoir. Parce qu'avec l'argent, nous ne pourrons jamais tout posséder, et que d'autre part, l'essentiel, ce après quoi nous courons, c'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est la joie, et ça ne s'achète pas. C'est bien ce que dit le troisième cavalier. Il dit « L'orge et le blé, pour un denier, tu auras ceci, pour deux, cela. » Très bien, tu payes, tu calcules, et si tu n'as pas assez d'argent, tu n'auras pas tout. « Quant à l'huile et au vin, dit-il, n'y touche pas. » Ça veut dire ça, je suis désolé, mais ça n'est pas à vendre. Et donc, si tu es dans une idée d'accumuler des richesses, eh bien, tu pourras accumuler des richesses, mais il y a quelque chose que tu ne pourras jamais acheter, c'est l'huile et le vin, c'est-à-dire la bénédiction et le bonheur. Et ça, tu ne peux pas l'acheter, parce que ce n'est pas à vendre dans les magasins. Et donc, cela veut dire qu'il y a l'essentiel que nous pouvons désirer, il ne se trouve pas dans cette quête matérielle, il faut le chercher ailleurs, il faut le chercher dans une autre dimension. Et c'est ce que dit le Christ, d'ailleurs, à propos des bons trésors. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, parce que ça, les voleurs les volent et la rouille les détruit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Eh bien oui, l'Évangile nous aide à comprendre certainement cela. Il y a des biens spirituels plus importants, il y a de l'essentiel qui est invisible pour les yeux et qui est inachetable. Et le monde matériel est certainement agréable à consommer, mais il est inefficace pour donner la bénédiction. Donc là encore, il faut avoir compris cela pour avoir une chance de chercher ailleurs. Quant au troisième cavalier, alors lui, il est encore plus radical, puisque c'est ce cavalier verdâtre. Il a la couleur du chlore, chloros, dit le grec, et il se nomme la mort. Alors ça, c'est peut-être celui par lequel nous aurions dû commencer. La mort, c'est peut-être l'expérience fondamentale de l'être humain qui nous rappelle une chose, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Et en effet, la chose la plus grave, c'est de se prendre pour Dieu. En français courant, se prendre pour Dieu, ça veut dire se prendre pour la chose la plus importante au monde, se prendre pour le centre du monde, se prendre pour quelque chose qui devrait être parfait, éternel, la référence absolue. Et ça, c'est épouvantable de penser une chose pareille, parce que c'est culpabilisant, parce qu'on n'y arrive pas, et puis ça fait beaucoup de dégâts, sur soi-même d'abord, parce que je crois que ça ça condamne à vivre dans une sorte d'erreur fondamentale, et ça fait aussi beaucoup de dégâts sur les autres, parce que quand on se prend pour Dieu, eh bien, les autres ne sont plus grand-chose. Alors une fois, à l'école biblique, je demandais aux enfants, justement, je leur parlais du péché originel d'Adam et Ève, qui avait consisté à vouloir se prendre pour Dieu, justement, au lieu de rester à sa place, et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui nous apprend que nous ne sommes pas Dieu, après tout ? Il y en a un qui a dit, ce qui est très juste, eh bien, c'est que nous sommes mortels. Et oui, c'est vrai, il avait raison. Nous ne sommes pas Dieu puisque nous sommes mortels. Et donc la mort nous apprend que finalement notre vie n'est pas une chose éternelle. Nous sommes une petite chose provisoire. Et donc s'il vous plaît, ne donnez pas non plus trop d'importance à vos petites personnes, à vos petits plaisirs, à vos réalisations, à ce que vous êtes. Nous ne sommes pas invités à faire de nos vies des monuments pour l'éternité, des monuments pour la postérité, des chefs-d'œuvre à admirer. Notre vie, elle est passagère et provisoire. Et j'aime cette idée de provisoire, parce que sur le provisoire, on est beaucoup plus tolérant. Quand il y a, je ne sais pas moi, une construction que vous trouvez moche dans votre rue, vous dites « Ah, c'est un scandale, on va faire une pétition pour qu'on la démolisse ». On dit « Vous en faites pas, c'est provisoire ». « Ah bon, bon, alors si c'est provisoire, tout va bien, j'accepte ». Et c'est ce que font aussi tout le monde dans les associations, quand on a des conseils pour faire passer des décisions. On dit « Mais c'est réversible, c'est provisoire ». « Ah bon, bon, alors allez-y, si c'est provisoire, faites tout ce que vous voulez ». Eh bien, notre vie, elle est comme ça, elle est provisoire. Par conséquent, j'ai un bouton sur le nez, c'est pas grave, je suis provisoire, je suis pas invité à siéger dans le musée du Louvre jusqu'à la fin des temps, et donc, eh bien, mon bouton sur le nez, il m'ira très bien. Je suis provisoire, et ma vie est quelque chose qui est ici, et je dois comprendre que de mettre justement ma vie à sa juste place. On a dit souvent que la conscience de la mort était, je dirais, le fondement de l'humanité. Je crois que c'est vrai. La conscience de la mort est à la base aussi de tous les rites spirituels et religieux. La conscience de sa propre mort est à la base de toute quête spirituelle, je crois. Parce que si l'on comprend qu'on est passager et provisoire, eh bien, soit on se contente de peu et on dit « Bon, de toute façon, je ne vaux rien et bon, allez, je vais vivoter pendant quelques années et puis après, je me fiche de tout. » Soit l'on se dit « Mais peut-être y a-t-il quand même quelque chose de plus important que moi. Peut-être y a-t-il quelque chose de plus éternel que moi. » Et du coup, je vais pouvoir me lancer dans une quête de l'éternel et dans une quête de l'absolu, dans une quête de la perfection. Et c'est là que peut débuter une quête spirituelle et une ouverture vers l'autre. Parce que si moi j'ai un désir d'éternité, et si cette éternité je sais que je ne peux pas la trouver en moi, je comprendrai que je pourrai la trouver dans un autre que moi qui est éternel, c'est-à-dire dans l'absolu ou en Dieu lui-même. Et donc il faut arriver à non pas se délecter d'une sorte de sentiment morbide de penser à sa propre mort, mais se remettre soi-même en perspective, pour que ce sentiment de notre mort prochaine ne soit ni un découragement, ni une rumination, mais soit simplement une légèreté qui nous est donnée par rapport au poids de notre propre vie. Alors, c'est là une chose, je crois, essentielle que nous apprend ce quatrième cavalier, qui finalement redit d'une façon fondamentale, peut-être un petit peu l'ensemble. Et je pense qu'effectivement, l'Évangile ne peut être reçu avec efficacité que si on a vraiment soif de quelque chose et si on arrive à se sortir de soi-même d'une façon positive pour aller dans une quête qui nous amène vers autre chose. Et ces chevaux sont peut-être très bons en ce sens qu'ils peuvent nous aider à grandir et ils peuvent nous aider à faire grandir aussi notre soif de Dieu et à nous préparer à l'accueillir. Alors vous me direz que tout cela est un peu difficile, tout cela n'est pas très agréable à s'entendre dire, oui c'est vrai, je suis imparfait, je suis mortel, j'ai du mal à m'entendre avec tout le monde, et etc. Mais en même temps, je vous l'ai dit au début, ces sceaux sont des chevaux, c'est-à-dire ce sont des combats. Alors est-ce que nous devons gagner ces combats? Je ne sais pas. Parce que d'après l'Apocalypse, eh bien celui qui est digne d'ouvrir ses sceaux, c'est-à-dire de briser ses sceaux, c'est-à-dire de dépasser ses combats, de vaincre ses combats, eh bien ce n'est pas le lecteur, c'est l'agneau, c'est-à-dire c'est le Christ lui-même. Et donc nous sommes là avec nos questions, avec nos difficultés de vie, et il y a l'agneau, c'est-à-dire le Christ lui-même, qui vient vaincre ces combats pour nous, et qui vient nous dire, eh bien dans cette crainte de la mort, dans ce sentiment de l'échec, dans cette difficulté à trouver la paix, dans cette quête du toujours plus, eh bien, vous êtes un peu impuissant là-dedans, mais le Christ lui-même vous rend vainqueur. Et c'est lui qui est le vainqueur de toutes choses. « Prends courage, dit Jésus dans l'évangile de Jean, car j'ai vaincu le monde, sous-entendu le monde matériel. » Et prenez courage aussi, parce que d'après ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, dans toutes ces choses qui sont la guerre, la mort et toutes ces choses-là, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés. Et donc, à ces quatre expériences pénibles, il y aura à chaque fois une réponse de l'Évangile. Alors là, maintenant, si vous avez compris cela, lisez l'Évangile. C'est l'Évangile qui donnera la réponse. Là, c'est simplement la préparation à la lecture de l'Évangile. Et vous pourrez voir dans l'Évangile qu'à l'expérience de l'échec, le Christ opposera la notion de pardon et la notion d'acceptation gratuite de la part de Dieu, la bonne nouvelle. À l'expérience délicate du désir de possession, le Christ nous dira « mais il y a des trésors invisibles que vous pouvez gagner pour l'éternité ». À la difficulté de la guerre et des troubles, le Christ nous dira « eh bien moi, je vous donne la paix ». Et puis à l'expérience délicate de notre mort prochaine, il y aura bien sûr la réponse de l'Évangile qui est celle du don de la vie éternelle. Et donc dans chacun de ceux-là, eh bien nous aurons une bonne réponse. Parce que, dit Paul, je suis persuadé que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.